penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour Albert Évrard, heureux de vous accueillir dans cette émission.
Merci Père Poirier.
Vous êtes un père jésuite.
Oui.
Et vous êtes arrivé à Toulouse il y a un peu plus d'un an.
C'est exact.
En provenance à la fois de Belgique et du Canada.
Voilà. J'ai une formation, si vous voulez, en droit qui est belge. J'ai un doctorat qui a été fait à Rome, en Italie. Et puis, il y a une constante dans toutes les études que j'ai pu faire, la criminologie ou les sciences politiques, par exemple, c'est de toujours m'attacher aux sujets qui concernent les personnes âgées. Alors, tous les travaux de fin d'études, tout ce qui a pu être fait, a toujours été, au fond, d'une certaine façon, dirigé vers ce sujet-là, avec des points d'attention un peu particuliers. Par exemple, en sciences politiques, c'était une manière d'accompagner et de regarder à partir de l'enseignement social de l'Église les questions qui se posaient en politique belge à l'époque. Et puis, je suis rentré au barreau de Bruxelles. Et là, assez vite, avec des amis, on a monté une commission vieillissement et droit. L'idée étant que, au fond, si le vieillissement concerne toutes les populations européennes, eh bien, elle concerne le justiciable, c'est-à-dire celui qui a des droits et des libertés et la possibilité de les faire valoir en justice, et que donc, il faut revisiter, il faut réfléchir à l'ensemble des branches du droit pour, d'une certaine façon, tirer les conclusions de cela et faire en sorte que le droit reste quelque chose à la fois d'accessible et à la fois quelque chose de praticable pour des personnes qui avancent en âge, qui sont âgées ou très âgées, même si les sciences sociales vous diront qu'il n'y a pas de définition de la personne âgée.
Parce que j'allais vous poser la question, à partir de quel âge devient-on âgé ?
Eh bien, on est âgé probablement, suivant les disciplines, à un moment différent de sa vie. Et donc, les biologistes vous diront qu'il y a dès que l'on naît une forme d'avancée en âge et de vieillissement, et que cela se marque probablement dans les cellules et des tas de choses comme cela, mais ce n'est pas mon domaine. Des théories développementales, développement de la personnalité humaine, fixeront des espèces de seuils, de paliers, avec des zones de crise qui marquent des passages d'un âge à un autre. On peut penser aux théories d'Eric Erickson, par exemple, aux États-Unis. Et là, on vous dit qu'on est âgé quand on est à peu près au-delà de 65 ans. Le droit a une approche très simple de cette question-là. Il l'approche par la fiction. C'est-à-dire qu'il ne s'embarrasse pas de savoir ce qu'est la réalité. Il pose comme fiction un chiffre numérique, un nombre, et il dit « vous êtes âgé à partir de tel moment ». C'est-à-dire que, à partir de tel moment, dans le continuum de votre vie, eh bien, vous perdez l'accès à des droits, ou au contraire, vous accédez à de nouveaux droits. Donc le droit a une manière très simple de régler la question. Il lui pose des fictions. Et la fiction, ce n'est jamais qu'une décision qui est prise par certaines personnes, le législateur ou l'exécutif suivant, et qui fixe à un moment donné un âge. En sécurité sociale, c'est une histoire qui est connue, mais on sait que les systèmes tels qu'ils sont inspirés chez nous, en France ou en Belgique, sont inspirés largement de l'Allemagne. Et que tout ça est né quand M. Bismarck, qui était chancelier à l'époque, est allé trouver les grands industriels dans les bassins de la Ruhr. Et il a demandé à ces gens-là, mais quand est-ce que vos ouvriers meurent ? Et la réponse à peu près unanime, c'était de dire, les ouvriers meurent à 60 ans. Et M. Bismarck aurait dit, eh bien nous allons mettre l'âge de la pension, de la retraite, à 60 ans. Autrement dit, le système ne pouvait être que bénéficiaire. Puisque
oui.
Si l'âge moyen de ceux qui meurent sont ceux qui accèdent à la retraite, ben le système, il est bénéficiaire. Alors, toute cette approche-là, évidemment, elle a considérablement évolué avec les progrès de la médecine, avec la longévité de la vie. Et tout ça fait que finalement, on se retrouve avec des sociétés et des États qui ont à gérer des problèmes importants, que ce soit dans le domaine de la santé ou de la sécurité sociale ou des régimes des retraites.
Nous sommes donc effectivement en pleine actualité de ce mois de janvier. On commence donc en France des négociations cruciales sur le système des retraites. Et vous venez nous donner donc ce chiffre de 60 ans. On parle de grand âge. Moi, lorsque j'étais petit, on parlait des personnes âgées, on ne parlait pas de grand âge. Est-ce que, maintenant on parle aussi de seniors, est-ce que le développement de ce vocabulaire tient nécessairement, j'imagine, à l'allongement de la durée de la vie, au développement de statuts qui ne sont évidemment plus les mêmes qu'à l'époque de Bismarck et a fortiori que...
Oui. Alors, en ce qui concerne le vocabulaire, effectivement, vous mentionnez une série de termes. On pourrait dire que le terme de senior, on le voit plutôt dans le droit de la consommation. On le voit plutôt du côté de l'université des aînés. On le voit plutôt du côté, au fond, de celui qui a terminé probablement son activité professionnelle et qui bénéficie de toutes les opportunités possibles parce qu'il en a globalement les moyens. Voilà. Ça, c'est un peu le langage des seniors, on va dire. Après, la chose varie selon les pays, hein. Mais on peut quand même utiliser ce critère-là. Si vous regardez, la Révolution française avait ouvert un nouveau calendrier, puisque on avait le calendrier avec toute une série de fêtes qui avaient été instaurées. Alors il y avait la fête de l'être suprême, mais il n'y avait pas que celle-là. Il y avait aussi la fête des vieillards.
Oui.
Et la République toute neuve avait essayé d'instaurer une fête des vieillards, en disant, au fond, il faut pouvoir célébrer une série de choses, en ce compris cette reconnaissance que la société a ou devrait avoir envers les aînés qui ont finalement contribué par toute leur vie à l'éducation des familles, au bien-être de la société en tant que telle. Et c'était une manière de célébrer cela que d'ériger une journée en une journée de fête. Et on trouve à la Bibliothèque nationale de France des discours qui ont été prononcés dans des communes de France à l'occasion de cette fête-là. Mais voilà un autre terme. Mais ce terme de vieillard a pratiquement disparu. Depuis, peut-on dire, une dizaine d'années, si vous regardez au plan de la communauté internationale, les Nations Unies font un effort certain pour faire de cette préoccupation pour le grand âge quelque chose d'un peu plus visible, pourrait-on dire, et avec dans l'idée poussée par ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire tout le monde associatif représenté au plan international, l'idée que l'on pourrait avoir une convention internationale pour la protection des droits des personnes âgées, au même titre que l'on en a une déjà pour les personnes handicapées, pour les enfants ou pour les femmes. Par exemple. Donc, et là, on utilise un autre terme. Là, on parlera plutôt de personnes âgées. Si vous allez au Canada, la production, et surtout à Québec, on parle des aînés. On ne parle pas des personnes âgées, on parle des aînés. Donc, vous avez toute une terminologie. Si vous entrez alors dans les écritures, ben, vous avez les anciens.
Les anciens,
ils sont à la fois ceux qui exercent une fonction. Et ils ne sont pas nécessairement ceux qui sont âgés.
Absolument.
Voilà. Donc, vous avez un vocabulaire. Je dirais que la tendance aujourd'hui, au plan international, c'est d'imposer un vocabulaire. En anglais, c'est plus visible, parce que la terminologie en anglais est plus distincte. Pendant très longtemps, on a utilisé le terme de « elderly ». Et puis maintenant, on a l'air de le bannir de tous les documents politiques. On trouve cette manière de faire également dans d'autres enceintes et au niveau de certains pays. On essaye de supprimer certains termes comme si on
c'était des gros
ces
mots.
Termes se trouvaient chargés ou ces termes étaient peut-être effectivement entendus ou perçus comme des gros mots. À l'inverse, certains disent, mais non, nous sommes des vieillards et il n'y a aucune raison de dire que nous n'en sommes pas. Voilà. Donc toute la question, c'est de savoir ce que l'on met derrière un terme, et toute la question, c'est de savoir quelle est la réalité dont on parle, et cette réalité vécue, de plus en plus, on la pense comme un continuum de vie, et une vie qui continue à être une vie. Vous savez, pour le droit, où vous êtes mort et vous devenez un objet de respect, où vous êtes vivant, et alors vous êtes pleinement vivant. Voilà. Alors, tout le débat dans lequel la France rentre de temps en temps, mais peut-être de façon un peu plus affirmée, avec une espèce de convention citoyenne pour parler de la fin de vie, eh bien, voilà, c'est un aspect dont il faudra sans doute tenir compte, cette idée que tant qu'on est vivant, eh bien, on est pleinement titulaire de droits et de libertés, sauf si, par une décision de justice, on a fait l'objet d'une mesure de protection qui restreint, d'une façon ou d'une autre, l'exercice de ses droits et de ses libertés.
Sans doute faudra-t-il introduire, mais nous le ferons dans une prochaine émission, puisque je rappelle que vous êtes avec nous pour 4 émissions, la distinction entre la manière dont les personnes qui sont dites dans le grand H se perçoivent elles-mêmes, leurs besoins, leurs attentes, voilà, et la façon dont elles sont perçues par les autres, et donc et désignées par les autres. Si bien que la série d'émissions que nous avons avec vous s'intéresse, enfin, peut intéresser tout le monde.
Voilà, donc l'approche n'est pas uniquement juridique, si même c'est le terreau de départ. Mmh. Il est certain qu'à partir du moment où je quitte le barreau et où j'entre dans la Compagnie de Jésus, on me déplace à différents endroits pour les motifs de la formation. Alors, que ce soit le Centre Sèvres à Paris ou que ce soit à Toronto, et puis plus récemment encore à Winnipeg, dans la province du Manitoba, au Canada, c'est à la fois pour aborder d'autres domaines que celui pur du droit ou de la philosophie du droit, en ce compris une recherche qui est devenue une espèce de constante maintenant, qui est une recherche dans les dessins et les imprimés, et les représentations de la vieillesse dans les dessins et les imprimés.
Merci beaucoup, cher Père Évrard. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine afin de poursuivre avec nos auditeurs cette réflexion donc, sur le grand âge. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, le grand âge, le vieillissement.
On pourrait dire l'avancée en âge.
L'avancée en âge.
Comme va avancer cette émission.
Voilà.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.